Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Le GI40 est un lieu de réflexion, d'expertise et d'aide à la prise de décision publique. Installé au cœur de Tunis, cet Institut global pour les transitions démocratiques, en bon français, a été créé en 2020, juste après l'élection de l'actuel président contesté, Kais Saied. Il est inspiré par l'ancien ministre de l'économie, Hakim Ben Hamouda, et il est dirigé par Khalil Ben Cherif, que nous avons rencontré lors d'un récent déplacement en Tunisie. Nous parlerons ensuite de la violence des colons israéliens contre les Palestiniens et les militants de la gauche israélienne, et cela en période de récolte des olives. C'est un reportage de Sami Boukhalifa. Nous lirons enfin les grands titres de la presse régionale, Israël et monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Khalil Ben Cherif.
Bonjour Éric Bataillon.
Pourquoi avoir créé ce think tank ici en Tunisie ?
Écoutez, le projet d'un think tank était une idée qui était la nôtre depuis pas mal d'années avec Hakim Ben Hamouda, qui est ancien ministre de l'économie et des finances, un économiste reconnu pour sa production depuis pas mal d'années. Et nous avons fait diverses expériences qui ont, avec plus ou moins de bonheur, mais qui étaient, disons, sans lendemain au cours de l'année 2019. En fait, c'est une opportunité qui s'est transformée véritablement en la structuration d'un véritable think tank. En fait, un rassemblement d'économistes au cours de l'été 2019, en vue des élections d'octobre 2019, avait pour vocation de produire tout un ensemble de propositions concrètes pour l'économie tunisienne. Et à la suite de ça, ce projet s'est transformé en conférence mensuelle sur les questions économiques. Et nous avons véritablement pensé qu'il y avait un intérêt et un besoin en Tunisie d'avoir un véritable think tank qui travaille sur la question de la transition démocratique et les questions économiques et sociales. Et c'est ce qui a donné lieu à la naissance du Global Institute for Transitions.
Alors, qui participe à ce think tank ? Des personnalités dans le conseil d'administration, mais aussi parmi les intervenants auxquels vous faites appel ?
Ah oui, tout à fait. Le conseil d'administration est composé de 18 personnes avec une parité parfaite entre hommes et femmes. Le conseil scientifique est beaucoup plus large puisqu'il a vocation à accueillir toutes les compétences et les chercheurs, que ce soit dans le secteur économique, social, politique, juridique. Depuis le lancement de Econ for Tunis, il y a la première initiative qui fait partie intégrante finalement du think tank. C'est elle qui est, disons, le programme économique au sein de l'Institut qui a une vocation plus large puisqu'il travaille sur les transitions en général, donc pas que sur les questions économiques. Et on a eu, depuis fin 2019, on est à plus de 120 intervenants qui viennent d'horizons très différents, qu'ils soient économistes, chercheurs en sciences sociales, chercheurs en sciences politiques, artistes, bref, un ensemble de personnalités reconnues pour leurs compétences.
Alors justement, comment diffusez-vous ces pistes de réflexion que vous construisez avec des intervenants ? Est-ce qu'il y a des colloques, des conférences, des livres ? Comment cela marche-t-il ?
Alors, en termes de diffusion, on a différents vecteurs qui sont d'une part les publications. Ce sont des policy papers qui sont produits de manière régulière. On essaie d'avoir entre 3 et 4 policy papers par mois. Donc, c'est quasiment un rythme hebdomadaire qui sont publiés en français ou en arabe, voire en anglais. Nous avons également des cycles de conférences, donc des rendez-vous mensuels fixes tous les derniers mardis de chaque mois qui traitent des questions de conjoncture économique qui sont très axées sur l'économie, qui s'appellent les mardis de l'économie, et des rendez-vous mensuels qui sont beaucoup plus ancré sur l'actualité, qu'elle soit politique, économique, sociale et culturelle également. Par ailleurs, en termes d'ouvrages, il y a une volonté au sein du GI40 de soutenir véritablement certaines publications qui font partie de la nouvelle génération, entre guillemets, d'auteurs et d'autrices en Tunisie que nous soutenons ou qui sont publiés véritablement par le GI40, comme les publications des derniers essais de Hakim Ben Hamouda.
Pourquoi avoir comme élément principal de réflexion l'économie ? Est-ce que c'est une question fondamentale aujourd'hui en Tunisie ?
Alors, l'économie est une question fondamentale. On a cette conviction qu'il est fondamental de mettre l'économie au cœur du débat public. Il faut véritablement faire de la sensibilisation des citoyennes et des citoyens aux questions économiques. Alors, ils en sont conscients, l'économie, ils la vivent au quotidien, de par les problèmes qu'il peut y avoir en termes d'inflation, etc. Et donc, ce sont des thématiques qui sont abordées au sein de l'Institut. La Tunisie est dans une situation où sa transition est fragilisée par la situation économique et ses impacts sont très importants. Les discussions que nous avons aujourd'hui, quoique le gouvernement aujourd'hui avec le FMI, qui est un acteur fondamental pour l'économie tunisienne, font que tout le monde doit prendre conscience de l'importance de la question économique en Tunisie.
Et à côté de cette question fondamentale et importante, il y a aussi la crise autoritaire. Et ça, c'est également un axe important de votre recherche.
Tout à fait. Les questions politiques sont également fondamentales. Nous sommes des observateurs, disons, aguerris. Je ne pense pas me tromper en disant ça, aussi bien au sein du conseil d'administration qu'au sein des différents intervenants qui participent à nos activités. Et nous sommes véritablement jaloux et nous ferons tout pour préserver la transition démocratique tunisienne, qui est un acquis qui est fragile et donc qui nécessite des analyses et des sonnettes d'alarme quand il le faut, et également de mettre au cœur du débat public ces questions-là et d'attirer l'attention lorsqu'il peut y avoir des risques de dérive, et donc de jouer également un petit peu le rôle de vigie.
Justement, votre think tank GI40 a été fondé en 2020, donc juste après l'élection présidentielle, avec l'arrivée de Kais Saied comme président. Comment le pouvoir accueille-t-il aujourd'hui les différentes propositions que vous pouvez faire ?
Écoutez, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Nous n'avons pas été confrontés à des problèmes alors que nous avons eu des intervenants et des activités au cours desquelles les avis étaient différents. Et donc la structure en Tunisie et le développement de la société civile en Tunisie fait que je ne vois pas comment une dérive autoritaire pourrait mettre véritablement en danger, ses acquis en termes de présence de la société civile. C'est pour ça qu'il faut d'autant plus être vigilant et observer de manière régulière tout ce qui se passe.
Vos projets, quels sont-ils ? Je crois que vous avez notamment un projet dans la presse.
Oui, alors ça c'est un projet qui a émergé à la suite d'une activité qui était un webinaire sur les questions de liberté de la presse au Maghreb, avec différents intervenants, des journalistes tunisiens, marocains, algériens, qui a permis d'échanger sur ces questions-là. Et puis, en off, derrière, nous avons évoqué l'idée de la création d'un observatoire de la liberté de la presse au Maghreb. Et donc, ce projet-là est en gestation aujourd'hui. Lotfi Madani, qui est notre collègue, qui a été un petit peu à l'initiative de ce projet-là, est en train de travailler pour que nous structurions ce projet. Et donc, j'espère véritablement que nous trouverons tous les moyens qu'il faut pour mettre en place cet observatoire qui nous semble important.
Un mot aussi de vos collaborations, notamment dans des structures de la société civile. Avec qui travaillez-vous aussi pour réfléchir sur l'avenir de la Tunisie ?
Alors, au niveau du GI40, nous avons une approche qui fait que l'objectif est de partager et de collaborer avec d'autres acteurs de la société civile qui maîtrisent un sujet en particulier. Donc, prends pour exemple l'Observatoire tunisien de la transition démocratique, qui rassemble ce qui se fait de meilleur en termes de chercheurs en sciences politiques en Tunisie, est une structure avec qui nous collaborons étroitement. Des acteurs comme le FTDES, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, qui est une ONG qui est militante, mais également qui fait de la réflexion. Bon, elle est plus militante sur le terrain et donc on est complémentaires en termes d'activité. Et là-dessus aussi, nous avons un projet d'observatoire des inégalités. Et d'autres collaborations avec la TFD, l'Association tunisienne des femmes démocrates, parce que nous pensons que les questions de genre sont fondamentales et que sur le volet économique, nous pouvons apporter pas mal de choses en termes d'analyse et de propositions.
La Tunisie aujourd'hui, sa situation politique et sociale et économique, êtes-vous plutôt optimiste, pessimiste ? Quelle est votre manière de voir les choses ?
Alors, la situation est compliquée, elle est difficile, on ne peut pas le nier, quoi. Les voyants sont loin d'être au vert. Les discussions avec le FMI sont terminées depuis quelques semaines et vont reprendre. Bon, et surtout, on attend une réponse de la part du conseil d'administration. La situation économique est vraiment tendue. Reste que ce pays est un pays qui a beaucoup de ressorts, pour lequel il ne faut pas grand-chose pour rebondir. Il s'agit d'essayer de mettre toutes les bonnes volontés en marche et dans le sens du progrès et de l'inclusion pour que la transition démocratique tunisienne continue sur sa voie.
Merci Khalil Belcherif.
Merci Eric Bataillon.
Orient Hebdo sur RFI.
Comme chaque année à l'automne, la récolte des olives a débuté en Palestine. Et comme chaque année, les Palestiniens font face aux attaques des colons israéliens installés illégalement sur leurs terres. Oliviers brûlés, arrachés, coupés, les colons s'en prennent également physiquement aux paysans palestiniens. Des injustices commises sous les yeux des forces d'occupation israéliennes déployées pour garantir la protection des colons. Pour en parler, on retrouve à Jérusalem notre envoyé spécial permanent, Sami Bouhelifa. Bonjour Sami.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Sami, vous êtes allé à la rencontre de ces Palestiniens harcelés presque quotidiennement par les colons durant cette période de la récolte des olives.
Tout à fait, Eric. Et ce que vous entendez là, c'est Om Khaldoun en plein travail. Elle trie ses olives. À 60 ans, la vieille dame a presque toujours vécu sous occupation israélienne. Elle a vu les colonies s'installer et se développer sur les terres palestiniennes, puis a assisté aux expéditions punitives des colons. Durant son enfance, la récolte des olives était un moment de joie. Aujourd'hui, c'est un véritable calvaire, témoigne Om Khaldoun.
Chaque année, c'est pareil. J'ai tellement peur pour mes enfants, pour nous tous au moment de la récolte. Que Dieu nous protège. Il y a quelques jours, les colons ont attaqué le fils du voisin. Il a perdu un œil, le pauvre. C'est tellement injuste. Ici, dans notre village de Bourine, on est entouré de colonies. Mais jamais ils ne parviendront à nous chasser de notre terre. On mourra ici.
On mourra ici, dit Om Khaldoun. Quoi qu'il en coûte, les Palestiniens sont déterminés à travailler leurs terres.
Oui, à l'aide de ce peigne vibreur qu'on entend, une sorte de râteau électrique, les fils de Om Khaldoun secouent soigneusement les branches. Une pluie d'olives tombe alors sur des bâches déployées au pied des arbres. L'opération est supervisée par le grand-oncle Abou Mounir. La colonie d'Itsar surplombe un autre de ses champs d'oliviers. Il affirme avoir perdu une partie de ses 86 arbres cette année brûlés par des colons. Écoutez-le.
Le monde entier est au courant de ce qui se passe ici. La communauté internationale fait tout le temps part de sa préoccupation concernant les violations que nous subissons. Ça fait 60 ans qu'ils se disent préoccupés. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution?
Sami, ces attaques de colons sont filmées et pourtant, rien n'est fait pour les stopper.
Oui, elles sont d'ailleurs filmées par des militants et des ONG israéliennes de défense des droits de l'homme. Mais effectivement, elles restent totalement impunies. Fin octobre, une vieille dame âgée de 70 ans, une militante israélienne anti-occupation, a été sauvagement attaquée par trois colons. Hagar Geffen, c'est son nom, a été grièvement blessée alors qu'elle accompagnait des agriculteurs palestiniens pour la récolte de leurs olives. Elle a été hospitalisée, elle souffre de multiples fractures aux côtes et à la main. L'attaque a eu lieu près de Bethléem, en Cisjordanie occupée. Et si les colons peuvent ainsi agresser une citoyenne juive sans être inquiétés, imaginez ce que ça donne lorsqu'il s'agit d'attaques contre des Palestiniens. Depuis des années, des ONG israéliennes comme B'Tselem ou Breaking the Silence dénoncent la violence des colons. Ils dénoncent également la protection qui leur est accordée par l'armée israélienne, mais rien n'est fait pour mettre un terme à leurs agissements.
La difficile récolte des olives en Palestine, votre reportage, Sami Bouhelifa, merci. Nous restons à Jérusalem et nous prenons contact avec le Caire pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre Bouchanti.
Oui, bonjour.
Et bonjour Michel Paul.
Bonjour, bonjour à tous.
À la une de vos journaux, Alexandre, la vacance du pouvoir présidentiel au Liban, elle fait l'objet de nombreux commentaires et analyses.
Oui, depuis le départ du président Michel Aoun à la fin de son mandat, plusieurs tentatives ont eu lieu au Parlement libanais pour choisir un nouveau chef de l'État maronite, comme le veut la Constitution. Lors des tentatives qui ont échoué du fait de la division des chrétiens libanais et notamment des maronites, indiquent les journaux. Les forces libanaises, formation traditionnelle des maronites, et le courant patriotique libre dirigé par le gendre du président sortant sont à couteau tiré. De quoi pousser des éditorialistes à se demander si on n'est pas en train d'assister à la fin du pouvoir qu'exerçaient les chrétiens sur un pays créé pour accueillir des minorités religieuses. En fait, les analystes estiment que les faiseurs de rois sont devenus les chiites du Hezbollah. C'est eux qui avaient permis à Michel Aoun de devenir président. Ce sont eux qui, après consultation de l'Iran, décidant éventuellement du nouveau président, pensent des éditorialistes qui estiment que l'avenir du Liban ne se décide plus à Beyrouth, mais à Téhéran. Seule une coalition arabe pourrait contrebalancer cette influence, mais les Arabes sont loin d'être d'accord sur l'avenir du Liban, conclut un commentateur.
Michel Paul, un grand sujet dans la presse israélienne, on s'en doute, c'est le comeback de Bibi et la victoire de la droite. Triomphe pour Benjamin Netanyahou et ses nouveaux alliés et triste journée pour la coalition sortante.
Dans quelle direction vont-ils, se demande le quotidien Haaretz, un titre qui figure aux côtés des photos de Benjamin Netanyahou et aussi de la vedette de cette élection, Itamar Ben-Gvir, le chef de file du parti raciste et homophobe sionisme religieux. Et aussi le visage abattu de Zehava Galon, la chef de file de Meretz. Le parti colombe israélien, qui pour la première fois en 30 ans ne sera pas représenté à la Knesset, le Parlement israélien. C'est le cas également de Balad, le parti démocratique national arabe, qui lui non plus ne franchit pas le seuil électoral. Quant au parti travailliste, il réalise le score le plus catastrophique de son histoire, avec seulement 4 députés. Une débâcle que les commentateurs expliquent que très simplement, alors que les formations de droite ont présenté un front uni à ces législatives, de l'autre côté de l'échiquier politique, c'était chacun pour soi. À droite, on partage le butin, à gauche, on échange les accusations, résume le quotidien de droite Israël Hayom. C'est l'ivresse du pouvoir et aussi un ego surdimensionné qui est responsable de ce fiasco, estime un éditorialiste. La majorité voulait un changement, elle obtient une révolution, fait remarquer Yediot Aharonot. Pour le journal de la gauche à Haaretz, Benjamin Netanyahou met en place une bande de pyromanes dans une région où une allumette seule peut tout embraser. Et à retenir aussi ce commentaire dans le quotidien Maariv, les Arabes israéliens, comme d'habitude, n'ont pas raté une occasion de rater une occasion.
Une levée de boucliers dans des journaux égyptiens et arabes, Alexandre, après l'annonce de la vente d'objets ayant appartenu à l'acteur Omar Sharif.
Oui, et les journaux commentent en fait l'annonce sur Internet du vente aux enchères en France d'objets ayant appartenu à la star égyptienne du cinéma international. Entre autres, un imperméable porté par l'acteur dans un film avec Jean-Paul Belmondo, des cartes de crédit et une carte de la Fédération nationale des courses françaises de chevaux. Des objets volés, selon son fils et des amis de l'acteur, décédé en 2015. Selon les journaux, ils ont porté plainte à Paris et au Caire. Une critique cinématographique regrette pour sa part que le projet de musée du cinéma égyptien n'est toujours pas vu le jour.
Michel Paul, en bref, les autres sujets qui font l'actualité en Israël.
Les alertes de retour dans le sud du pays, soulignent les journaux. Pour la première fois depuis la confrontation de 3 jours en août dernier, des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, au lendemain des élections israéliennes, une forme de baroud d'honneur, estiment les commentateurs, avec la riposte quasi immédiate de l'aviation israélienne sur des positions du Hamas dans ce territoire palestinien. De nombreux articles à ce sujet, également la répression avec une nouvelle attaque ciblée israélienne à Jenin. Farouk Salameh, un chef de guerre du djihad islamique, a été tué. Sa photo, entourée de fusils d'assaut, est reproduite par la presse ici. Autre élément à retenir, plusieurs chroniqueurs se demandent si le changement politique en Israël va entraîner un changement de position dans la guerre en Ukraine. Pas de réponse à ce stade, Eric.
Merci Michel et merci Alexandre. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golshani. Retrouvez-nous sur le site de la radio RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio et sur la plupart des plateformes numériques. Demain, nous effectuerons une plongée en novembre 1942, le 8 exactement, jour du déclenchement de l'opération Torche, un débarquement en Afrique du Nord des troupes alliées avec l'aide à Alger de près de 400 jeunes gens, dont la plupart sont juifs. Cette opération méconnue est racontée dans un documentaire « Juifs d'Algérie, la résistance oubliée » que diffuse la chaîne de télévision France 5 demain soir à 22h40, heure de Paris, et dont nous recevrons les auteurs et réalisateurs Stéphanie Monsénégo et Bernard Georges. À demain donc, prenez soin de vous.